Je pense que pour gagner les plus grandes courses, au vu du niveau stratosphérique des mecs devant, et surtout dans une discipline en fait où le niveau, ben, la discipline se professionnalise, donc forcément le niveau augmente de manière incrémentale. Bah aujourd'hui, si tu veux, clairement, aujourd'hui si tu veux gagner un UTMB, si tu veux même faire podium à une CCC, eh ben faut que tu sois prêt à mettre le clignotant au kilomètre 70. Parce que si tu fais une course en gestion, bah tu rates le premier wagon et tu reviens jamais. Pour moi, le niveau est tel que si tu veux gagner la course, faut que tu sois prêt à la perdre.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Baptiste Chassagne. Véritable pépite du trail running âgé de 28 ans seulement, Baptiste a signé des résultats sportifs de haute volée ces derniers mois et ces dernières années, et notamment en ultra trail, un format qu'il a découvert tout récemment. Il va nous faire vivre aujourd'hui sa course épique sur le mythique Lavaredo Ultra Trail au cœur des Dolomites en Italie. Un décor majestueux qui a donné à vivre à Baptiste une passe d'armes d'une grande intensité au fil des 120 km de la course. Vous l'entendrez, Baptiste, au-delà d'être un sportif accompli, porte un regard avisé et passionnant sur sa discipline, avec un sens de la formule qui fait mouche. Et puis c'est un homme de passion. Baptiste, c'est la tête et les jambes, et surtout le cœur. Je vous le dis régulièrement, mais j'ai vraiment passé un moment captivant à échanger avec Baptiste. Vous ne verrez pas l'épisode passer, je peux vous le garantir. Mais je ne vous en dis pas plus. Baptiste va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Puissance 4. Salut Baptiste, je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Il faut dire que j'entends parler de toi en termes très élogieux depuis un bon moment pour des raisons sportives, mais pas seulement. C'est vraiment le passage de pommade de début d'épisode, mais qui est très sincère. Donc je suis vraiment ravi que nos routes podcastiques se croisent enfin aujourd'hui.
Salut Guillaume, merci beaucoup de me recevoir. Déjà, tu mets pas mal de petites pressions avec tous les compliments que tu viens de me mettre sur le dos, mais je te remercie pour ces fleurs et je vais essayer d'être, d'en être, ouais, pas digne, mais de les mériter, quoi, d'être à la hauteur. Quand les attentes sont hautes, c'est difficile d'être à la hauteur, mais je vais essayer.
Aucune pression. On sait d'ailleurs que tu résistes bien à la pression, mais ça se passera très bien, j'ai aucun doute là-dessus. Baptiste, on enregistre cet épisode le 7 juillet. Est-ce que ton message automatique d'absence est déjà programmé et tes valises sont dans le couloir ou est-ce que c'est un peu prématuré?
Ah non,
ou est-ce qu'il n'y a pas de vacances?
c'est totalement prématuré. Au sens où, ouais, moi, le mois de juillet, et notamment celui qui suit, celui d'août, c'est une période assez intense en termes d'entraînement, mais aussi en termes de boulot. Donc non, je suis pleinement actif, pleinement productif et pleinement attentif.
Baptiste, on va commencer avec une traditionnelle question d'ouverture de ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs sans tout de suite déballer toute la grande histoire sur la dimension sportive et course à pied, plus particulièrement ton parcours? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de façon plus générale sur qui tu es?
Je vais tâcher de faire preuve d'un esprit de synthèse bien trop rare. On me reproche souvent de faire un peu plus long que ce qui est prévu. Donc, je m'appelle Baptiste Chassagne, j'ai 28 ans et je suis aspirant ultra-trailer pour le team Sidas Matrix.
Et tu vis à Lyon?
Alors, je suis effectivement, alors je vis pas totalement à Lyon, donc je suis, on va dire, toute ma famille est originaire de Saint-Étienne. Moi, je suis né à Lyon et je vis à Lyon. Du coup, ça a développé une tendance un petit peu bipolaire, effectivement, et une véritable affection pour cette course qui est ma course de cœur, la Saint-Aignan, forcément. Et aujourd'hui, je suis dans un double projet. Donc, j'ai une petite agence de com, et en même temps, je suis sur un projet de démarche professionnelle en trail dans le sport, et c'est ce qui me fait vivre en fait la moitié de l'année dans un petit village tout plein de quiétude qui s'appelle Combloux, sur les balcons du Mont-Blanc. Donc je vis à Lyon, à moitié à Lyon et à moitié à Combloux.
Ça fait rêver.
Ça fait, ouais, clairement rêver. Quand je prends le café sur ma terrasse depuis Combloux, c'est exactement ce que je me dis et je mesure la chance que j'ai d'être à cet endroit-là.
Baptiste, je te propose de remonter un peu le temps. Est-ce que tu pourrais nous parler du petit garçon que tu étais ? Est-ce que tu étais un petit garçon tonique, sociable, plutôt solitaire ? Comment est-ce que tu te décrirais à l'époque ?
Je pense que j'ai toujours été... j'étais un petit garçon... le mot qui me viendrait, c'est passionné de sport. La première image qui me revient de moi, petit garçon, c'est attendre derrière la porte d'entrée de chez moi que mon père rentre le soir, parce qu'on avait un contrat tacite entre nous, c'est qu'il devait me ramener l'équipe, le journal l'équipe, tous les jours. Et en fait, quand il ne le faisait pas, j'étais extrêmement déçu et je pouvais me montrer assez bougon par la suite, pendant la soirée. Et en fait, voilà, ça a nourri ma passion du sport.
À quel âge ça a commencé ?
Très jeune, je pense à 4 ans, puisque en fait, grâce à ces cours de français un peu accélérés, j'ai appris à lire tout seul et du coup, ça m'a permis de sauter la classe préparatoire au CP puisque je savais déjà lire grâce à l'équipe. J'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet, c'est que en moyenne section, c'est un souvenir vraiment qui est ancré. La maîtresse nous avait demandé de ramener des livres à la fin de l'année qu'on pourrait partager avec nos amis de classe. Et moi, j'avais ramené l'équipe de la veille. Je me souviens, ça parlait de Manchester United. Et je m'étais mis au fond de la classe et j'avais lu l'équipe. Et,
génial.
Et en fait, c'est vraiment ça. C'est que j'étais un petit garçon passionné de sport. J'ai fait énormément de foot. Je jouais tous les jours au foot, en club, pas à un niveau exceptionnel, mais c'était vraiment une énorme passion. Et du coup, ça fait de moi, je pense, quelqu'un d'assez social au sens où ben, j'aimais être avec les copains et j'aimais jouer au foot dehors. Au sens où le dehors, mon dehors, moi, c'est le dehors à la ville. C'était un terrain. Je suis grandi à Lyon, à côté de. Non, à Lyon 8e, dans un quartier qui s'appelle le Grand Trou. C'est un peu bizarre. Comme...
Belle promesse.
Ouais, c'est ça. Ouais, mais finalement, c'est pas si difficile de s'en extirper. Non, moi, c'était un grand plein, ce Grand Trou, parce qu'en fait, c'était plein de rencontres, plein de bons moments. Et voilà, ça fait de moi, je pense, quelqu'un passionné de sport et assez social et vraiment dans une logique de sport d'équipe et qui aime jouer collectif, quoi. Et c'est comme ça que je me définirais en tant que petit garçon.
Et cet intérêt déclaré pour le sport, est-ce qu'il est aussi lié à beaucoup de choses que tu as vues à la télé et que tu as vécues par l'entremise de ton écran, ou c'est vraiment aussi toi et ton envie d'ouvrir la porte pour aller chausser des baskets et d'aller faire du sport dehors, ou est-ce que c'est aussi hérité de moments un peu fondateurs et de belles images de sport qui t'ont marqué et qui t'ont forgé cette culture et cette appétence pour le sport ?
Ouais, alors vraiment, moi, le sport, à la base, il est né, cette connexion au sport, elle est née par une connexion au ballon. Clairement, j'étais un grand fan de football. Mon père, il m'a amené dans les tribunes du Cop Nord à Geoffroy Guichard, j'avais 3 ans et demi. Sa carotte, en fait. Je pense qu'il n'avait pas de pote pour l'accompagner lyonnais, du coup. Il disait, bon, bah, alors je vais amener mon fils de 3 ans et demi. Et il m'amenait en échange d'un sandwich au saucisson que je mettais 90 minutes, du coup, à manger avec mes petites mains et ma petite bouche. Et du coup, j'ai ces images de fumigène. Et du coup, j'ai été éduqué un petit peu dans cette ambiance-là. Ensuite, il y a eu la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000. Et à partir de là, j'ai élargi mon spectre et je me suis passionné de sport au sens large. Le handball, le basket, et puis après, en fait, je suis venu au Tour de France, aux exploits en athlétisme, en natation, et en fait, j'ai commencé à me passionner de ça, mais à cette époque, j'avais jamais entendu parler de trail. En fait, jusqu'à assez loin, on va dire, dans mon cursus étudiant, je saurais même pas ce que c'est que le trail, mais je suis gros passionné de sport.
Et comment elle s'est fait cette rencontre avec le trail, justement ? Est-ce qu'il y a eu un événement et un élément déclencheur, ou est-ce que c'est un intérêt que tu as senti quand même grandir en toi et un intérêt que tu as développé progressivement ?
J'ai du mal à dégager un élément, un acte fondateur de ma passion pour le trail, mais c'est venu assez naturellement, au sens où je me suis blessé une année au foot pour garder, conserver un petit peu la caisse. J'ai commencé à courir, j'ai adoré ça. Je devais avoir 18, 19 ans, mais je faisais mes études à Paris. Donc voilà, c'était vraiment au début un complément, c'était de la course à pied en complément au foot. Et puis en fait, après, vers 22, 23, je me suis inscrit à une petite course à côté de chez moi, de Lyon, donc dans le Beaujolais, que j'ai gagné. Et puis en fait, ce qui m'a rendu totalement accro, plus que le fait de courir en montagne, c'est cette sensation d'être dans le rouge, de se donner, d'être dans le dépassement de soi, et puis la sensation de gagner. Donc je dirais que la passion, elle est d'abord née par cette logique de dépassement de soi que par quelque chose de très contemplatif et hédoniste.
Cette victoire, ça a été une surprise pour toi ? Est-ce que tu soupçonnais que tu avais un potentiel pour réaliser des jolies choses déjà ?
Ouais, c'était une surprise. C'était un trail que j'avais fait avec des chaussures de running, des Adidas Boost à l'époque, un truc comme ça. Du coup, comme il avait vu arriver, sur la ligne d'arrivée, puis je courais avec un t-shirt en coton. J'étais pas du tout. C'était plutôt une surprise. Après, je me souviens bien quand je me suis retrouvé devant. Moi, j'aime gagner. Et au foot, c'était le cas. Du coup, une fois que j'étais devant, j'étais pas surpris. La fleur au fusil. Je me suis dit, la perspective de franchir en première ligne d'arrivée se présente. Autant la saisir. Et du coup, c'est ce qui est arrivé. Et en fait, c'est cette logique de performance qui a nourri ma passion. C'est-à-dire que je me serais découvert un talent pour un autre sport. Peut-être que j'aurais bifurqué vers ce sport-là. Et en fait, j'ai de la chance puisque je suis allé naturellement vers le trail. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, j'ai une deuxième lame de fond qui me passionne encore plus pour ce sport, au-delà de l'aspect purement performance, avec toutes ces valeurs et le cadre dans lequel on évolue. Donc, on va dire que j'ai pris une double claque de passion pour le trail.
Est-ce qu'à l'issue de cette course, tu t'es tout de suite projeté dans la prochaine, dans la suivante ? Est-ce que ça t'a immédiatement ouvert un nouveau monde et puis cette envie encore à nouveau d'essayer de performer et puis d'explorer cette nouvelle discipline ?
Pas dans une démarche de haut niveau ou même pas dans une démarche de performance parce que disons que la démarche de performance et de haut niveau, avant, je la mettais ailleurs, je la mettais dans mes études. Disons que je faisais mes devoirs comme je m'entraîne aujourd'hui avec beaucoup d'assiduité, un peu de besogne et pour avoir en fait des bonnes notes et pour avoir décroché un beau diplôme pour pouvoir faire ce qui me plaît plus tard. Et donc du coup j'étais plus dans cette logique là de performance et la course à pied en fait c'était plutôt quelque chose d'exutoire. Je suis pas mal parti à l'étranger dans le cadre de mes études, donc forcément, ça a fait fluctuer mes entraînements et c'était pas du tout structuré. Donc, franchement, au début, c'était vraiment plutôt exploratoire et exutoire comme pratique.
Cette envie de performer, est-ce que tu l'imputes à toi, le faire pour toi ? Enfin, c'est un sujet par rapport à toi-même ou est-ce qu'il y a aussi un truc de compétition par rapport aux autres personnes qui sont sur la ligne de départ ce jour-là ?
Ah, c'est une vraie bonne question et c'est quelque chose dont je cherche encore la réponse. Je pense que la clé, c'est de trouver un équilibre entre les deux. J'ai entamé la préparation mentale il y a un an. Ça a été vraiment un virage dans ma carrière et dans ma pratique, au sens où depuis, je suis beaucoup plus apaisé par rapport à celle-ci. Et en fait, la première question, c'était effectivement l'équilibre entre les motivations intrinsèques, ce qui me motive vraiment moi, et les motivations extrinsèques, c'est-à-dire est-ce que je le fais pour les autres ? Et je pense que oui, il y avait une part d'ego qui est peut-être un petit peu trop prononcée au début, et que là, j'ai réussi à atténuer. Et en fait, je suis allé chercher, via cette deuxième claque de passion pour le trail dont je te parlais, le fait d'être en montagne, le fait de faire des belles rencontres, le fait de passer des heures de kiff dehors, je suis allé chercher des choses un peu plus profondes et liées à moi-même, par la suite. Donc aujourd'hui, c'est les deux qui me motivent.
Qu'est-ce qu'elle doit avoir pour toi une course pour être réussie ? C'est quoi les ingrédients indispensables ?
Je crois que une course réussie pour moi, c'est une course dont tu franchis la ligne d'arrivée avec un sentiment de plénitude et satisfaction qui est très propre à toi, enfin très propre à soi-même. C'est-à-dire qu'il y a plein d'indicateurs objectifs qui pourraient te faire dire la course est réussie ou pas. Le chrono, le classement, les concurrents que tu as battus ou non. Et en fait, je crois qu'une course réussie, c'est au-delà de tout ça, c'est tu le sens au fond de toi, en fait. Tu sais au fond de toi si le jour J, là, t'as délivré la cam correcte par rapport aux objectifs que tu t'étais fixé. Si c'est une course de prépa, bah, t'as été en phase avec ton schéma de course, t'as respecté ce que tu t'étais fixé et t'es content de toi. Si c'est une course à objectif, vraiment, t'as réussi à donner le meilleur de toi. Et voilà, en fait, je pense que c'est très personnel et on est tous capables, si on fait un petit travail introspectif, de savoir si ou non on est satisfait.
C'est très personnel, puis ça peut être très variable selon la course, aussi du cas par cas,
carrément.
Selon l'ampleur et la teneur de l'objectif assigné à chacune.
Oui, je suis carrément en phase avec toi.
Petite pause autodiagnostic classique dans l'épisode, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu considères être tes points forts, les sphères dans lesquelles tu as naturellement des facilités ou dans lesquelles en tout cas tu as travaillé et entrepris pour en avoir, donc que ce soit d'un point de vue physique et mental, qui est donc un sujet sur lequel tu travailles particulièrement depuis un an, ce que tu nous expliquais. Et puis, est-ce qu'il y a des sphères dans lesquelles tu vois encore une marge de progression ? J'imagine que oui. Est-ce que toi, ton idée, c'est d'arriver finalement à lisser ces zones un peu sur lesquelles il y a encore un peu de chemin ou c'est plutôt de capitaliser sur les forces existantes, si tu devais faire un choix entre les deux ?
Alors, je vais...
Ça fait plein de questions en une.
Ouais, mais j'ai tout bien noté, tout catégorisé. Alors, en termes de qualité physique, je pense que... Mon avantage, il réside dans mon endurance de force, au sens où je ne suis pas capable d'aller très vite en montagne, par contre, je suis capable d'aller moyen vite longtemps. Je pense que ça, pour un ultra-trailer, c'est une qualité assez fondamentale. Ensuite, en qualité mentale, je pense que je suis assez résilient et j'ai aussi une bonne capacité d'analyse et de gestion de course. Pour l'instant, j'explose assez rarement. Je suis plutôt le Pac-Man, mais ça, c'est certainement parce que je fais des courses en gestion et que je suis pas prêt encore à gagner les courses quitte à les perdre. Je mets pas all-in comme les grands champions. Et ensuite, sur l'aspect mes points à travailler, j'ai entrepris la démarche de performance et la démarche athlétique assez tardivement. Et donc, du coup, en fait, ça fait que toutes les bases de l'athlétisme pur et de la montagne pure, je ne les ai pas. Donc, ce qui m'offre une marge de progression, mais ça fait que je pars de loin. Donc, très clairement, bah, en termes de VO2, de foulée, même de technicité en montagne, c'est des points que je qualifierais pas de faibles, mais c'est des points vraiment qu'il faut que je travaille parce que je les ai jamais travaillés. Voilà, et en termes de qualité mentale aussi, où je pense que je peux m'améliorer, c'est sur cet aspect, c'est l'équilibre dont je te parlais tout à l'heure, c'est le fait de vraiment se recentrer sur soi et le pourquoi je suis là et pourquoi je le fais.
Pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que tu crois que cette notion de all-in, elle est indispensable pour imaginer gagner, donc parfois perdre, mais imaginer gagner, il faut nécessairement faire ce pari-là et assumer cette part de risque?
Je pense que pour gagner les plus grandes courses, au vu du niveau stratosphérique des mecs devant, et surtout dans une discipline en fait où le niveau, ben, la discipline se professionnalise, donc forcément le niveau augmente de manière incrémentale. Et aujourd'hui, si tu veux gagner un UTMB, si tu veux même faire podium à une CCC, et ben faut que tu sois prêt à mettre le clignotant au kilomètre 70. Parce que si tu fais une course en gestion, bah tu rates le premier wagon et tu reviens jamais. Donc effectivement, il y a une punchline que moi j'aime bien, c'est « take the risk or lose the chance », bah c'est exactement ça aujourd'hui. C'est, pour moi, le niveau est tel que si tu veux gagner la course, il faut que tu sois prêt à la perdre. Sur les grandes courses. Après, sur des courses... aujourd'hui, il y a plein de petits trails régionaux et je pense que là, c'est pas forcément le cas. Tu peux faire plus des courses en gestion, mais sur les plus belles courses, aujourd'hui, c'est ma vision des choses, oui.
C'est un moment que tu as repoussé jusqu'à maintenant, ce moment où il faut prendre cette décision-là. Est-ce qu'il y avait une idée de construire aussi de la confiance, un palmarès, des belles références, et est-ce que c'est un peu l'étape d'après ?
Je pense que dans une construction de carrière, carrément... c'est par étapes, c'est-à-dire que pour être capable de prendre des risques, il faut être en confiance, il faut les prendre au bon moment. Et pour ça, en fait, pour construire la confiance, il faut déjà, il faut déjà avoir réussi des performances qui t'offrent cette dynamique-là. Et moi, pour le moment, la Transgrande Canaria et le Lavaredo, c'est vraiment deux étapes pour justement construire ce socle de confiance qui va me permettre, dans un futur proche, j'espère, de prendre plus de risques et de jouer ce all-in. Parce que quand tu vois un Pao Capel au kilomètre 70 du Lavaredo, quand tu le doubles, t'es content. Mais tu sais qu'en fait, lui, finir 5 ou 6e du Lavaredo, bah, il s'en fout. Lui, s'il vient, c'est pour la gagne. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que il court pour la gagner et quitte à la perdre. Et un jour, j'aimerais de cette trempe-là. Je pense à Pau Capel ou Lavaredo, mais à la Transgrande Canaria, il y en a eu plusieurs aussi. À la CCC l'année dernière, mais là, c'était un florilège de favoris qui étaient partis plein de panache pour la gagne. Je pense à Luis Alberto, André Ussimone, Stian. Enfin, quand tu récupères ces mecs-là, t'es tout content, mais en fait, tu comprends que eux, ils n'ont pas fait la même course que toi.
Et toi, tu es en phase avec l'idée de te dire que, en imaginant que l'ambition soit de jouer la gagne et d'être premier, de renoncer à quelques dizaines de kilomètres de l'arrivée parce que c'est pas la position qui t'est promise et que finir 4 vaut mieux pas la finir que finir 4, par exemple.
Je pense pas. Alors je dis pas qu'ils ont bâché parce que ils voulaient pas finir à une position qui est pas en phase avec leur statut. Ils ont bâché parce qu'ils étaient plus en mesure d'avancer et que physiquement ils étaient. Quand j'ai oublié Stian, il avait hyper mal au genou. Luis Alberto, il pouvait plus courir. Je pense juste qu'ils ont couru jusque la limite de leur corps pouvait les emmener et que ouais ils ont joué avec cette limite là et moi ça fait que jusqu'à présent du coup mes ultras je les finis pas non plus dans le rouge total parce que je suis pas prêt en fait encore à tout perdre parce que dans ma construction de carrière moi comme je t'ai dit en préambule je me considère aspirant ultra trail runner. J'aspire à devenir un des meilleurs ultra-trailers du monde, mais je sais que ce n'est pas pour tout de suite et que du coup, ben, progressivement, je serai en mesure de prendre ces risques qui m'amèneront vers les plus belles performances possibles.
On va faire un tout petit retour en arrière sur ton parcours. Tu es diplômé de Sciences Po. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous dire à quoi tu aspirais pendant ton cursus et à ce moment-là, est-ce que l'orientation sportive assez majeure qui a pris ta trajectoire, même si elle n'est pas exclusive aujourd'hui. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est un rêve déjà que tu nourrissais et puis pour lequel tu as fait en sorte de lui donner corps?
Oui, alors moi, je fonctionne beaucoup aux anecdotes et aux symboles et aux souvenirs. Je me souviens, quand j'étais tout petit, ma grand-mère, elle m'a demandé tu veux faire quoi plus tard? Et j'avais dit, bah, je veux être sportif de haut niveau. Et je veux être un champion, un athlète. Enfin, je veux être un athlète, juste. C'est-à-dire, je veux faire du sport et rechercher la performance tous les jours. Et faire de ça mon focus principal. Et en fait, rapidement, avec mon piètre niveau en foot, j'ai compris que ce serait compliqué. Donc, j'ai mis ça de côté et je me suis mis dans une démarche de performance dans les études pour aider ceux qui avaient le talent d'être athlète. Donc, j'ai fait le cursus de Sciences Po parce que clairement, je voulais bosser dans une institution comme le CIO ou dans une rédac comme l'Équipe. Enfin, voilà, bosser pour aider, développer ou valoriser des athlètes. Et jamais j'aurais pensé toucher du doigt un petit peu cette carrière-là. Même il y a 3-4 ans, c'était complètement. Enfin, j'y pensais pas, quoi.
Aujourd'hui, tu nous l'as dit, tu jongles entre ta vie d'athlète et ton activité professionnelle dans le milieu de la com. Est-ce que ce serait pour toi un scénario idéal à terme de te consacrer à 100% à ta carrière sportive ou est-ce que tu as fondamentalement aussi besoin de cet équilibre et que ça te nourrit de façon très complémentaire?
Non, j'en ai besoin. Tu vois, je me dis, un bipède, il se meut sur deux jambes. Eh ben, moi, je pense qu'un athlète, il se construit de façon équilibrée sur deux projets. Et du coup, aujourd'hui, je suis parfaitement en phase avec ce double projet-là. Donc, j'ai envie de continuer dans cette perspective d'avoir mon projet professionnel 40 BPM et mon projet athlétique de performance en trail. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est de pouvoir lever le pied un petit peu pendant quelques années, pendant ce chapitre-là de ma vie, sur le professionnel, tout en gardant quand même un pied dedans, parce que c'est hyper important et épanouissant, pour pouvoir un petit peu augmenter le volume horaire consacré à ma passion pour le trail. Je pense pas que je m'entraînerai plus, mais peut-être un tout petit peu plus. Mais c'est surtout que je pourrais vachement plus capitaliser sur les à côté, comme la récupération, la nutrition, la prépa mentale, et puis la communication avec mes partenaires, et puis m'investir encore plus en fait auprès de cette communauté que j'adore.
Merci beaucoup pour cette introduction, Baptiste. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise qui est revisitée depuis quelques semaines. Donc, j'ai trois questions à te poser dans ce cadre-là.
Pourquoi c'est revisité ? Parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement depuis l'Asie.
Oui, depuis la Chine. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, j'ai été contraint. J'ai plus de stock. Donc, j'étais obligé d'aller chercher.
Oui, c'est une basket chinoise made in France.
Exactement. Voilà. On est plus proche là, du questionnaire de Proust que du portrait chinois. Ça a un petit peu évolué. Donc, la première question de cette basket chinoise proustienne, est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment qui a changé ta vie pour toujours ?
Oui. Donc, ce moment-là, c'est la rencontre avec Thomas Janichon et Simon Gosselin, les deux cofondateurs du team Sidas Matrix. Pourquoi ce moment ? Parce que je pense que c'est le point de bascule vers ma démarche de performance en trail. En fait, c'est via leur rencontre que j'ai pris conscience de mon potentiel et en fait de mes envies d'orienter ma vie autour de ce projet-là. Donc c'était en 2018, à la création du team, et en fait ils m'ont fait découvrir le sport de haut niveau. Ils m'ont pris la main et ils m'ont amené dans le sport de haut niveau, et je pense qu'aujourd'hui ça a changé ma vie.
Deuxième question de cette basket chinoise, est-ce que tu pourrais nous parler du talent que tu aimerais le plus avoir ? C'est très ouvert, hein. C'est pas nécessairement dans la sphère sportive.
Alors, mes colocs, ils citeraient certainement un don pour la cuisine que j'ai pas forcément. Mais moi, je vais citer l'oisiveté. Et je pense à mon frère, parce que donc lui, il est en études de médecine. Il est en septième année et il se met des missions, il bosse aux urgences en tant qu'interne et du coup c'est très intense et il a cette capacité ensuite à déconnecter et à dégager une sensation d'apaisement et de sérénité dans le fait de se reposer que moi j'ai pas. C'est-à-dire que moi je suis toujours, j'ai théorisé ça comme de la productivité. Je pense que j'ai un besoin tout le temps, je dois produire, donc je dois produire un effort intellectuel, un effort physique. Quand je vais m'amuser avec des potes ou je vais passer un bon moment en famille, il faut que je produise de l'amusement ou de l'épanouissement ou du repos. Et en fait, j'ai du mal parfois à débrancher. Et ça, je trouve que c'est un vrai talent. Un talent qui s'apprend, heureusement.
Donc, tu progresses dans le domaine.
La société, ouais, c'est ça.
Enregistrer un podcast, ça rentre dans cette case-là ou pas ? C'est un moment oisif. Ou est-ce qu'il va falloir que tu compenses après l'heure et demie qu'on va passer ensemble ?
Là, je vais te demander une petite pause pour pouvoir aller faire des pompes, ouais. Non, voici, c'est... Non, j'arrive de plus en plus parce que je sens que derrière, je suis plus épanoui et j'arrive plus à être entier dans le moment que je vis, ouais. Effectivement, et donc là, je prends du plaisir.
J'ai un peu le même problème, je t'avoue.
Ben, si tu veux, on...
sur d'autres sphères. C'est pas la pratique sportive à haut niveau qui m'accapare, mais notamment avec le podcast, j'ai du mal à couper à plein de
moments. Du coup, c'est peut-être...
Quand on est engagé dans un projet, ouais, c'est difficile, malgré la vie de famille, etc.
Donc toi aussi, t'as la productivité.
Ouais, je sais pas me poser, ça n'existe pas. Dernière question de cette basket chinoise, est-ce que tu pourrais nous parler de l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté ? Donc ça peut être un moment particulier ou une notion plus générale.
Non, c'est plus un moment particulier. C'est à l'automne dernier, en préparant ma course de cœur, du coup la Saint-Élion, qui n'avait pas eu lieu l'année au préalable pour cause de Covid. Du coup, ça faisait 2 ans que je l'attendais et je l'ai préparé avec une telle ardeur et une telle envie que je me suis blessé, je me suis fait une fracture de fatigue. Et en fait, suite à ça, j'ai remis pas mal de choses en question. Ça a matché en fait avec le fait de faire la Transgrande Canaria et de ça a accéléré, on va dire, ma découverte de l'ultra trail. Ça a accéléré aussi le fait que je me pose plus, que je sois plus serein, que je trouve des motivations intrinsèques plus fortes. Bref, ça a contribué, je pense, à un nouveau moi. Alors, je dis pas que celui d'avant, il était pas, il me convenait très bien, mais en tout cas une mise à jour. Et suite à ça, eh ben, j'ai réussi une super perf à la Transgrande Canaria, dont je suis très fier de par la résilience qu'elle comporte. Et depuis, en fait, ce dont je suis fier, c'est cette démarche. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la démarche plus que la ligne d'arrivée. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont je suis fier.
Merci beaucoup, Baptiste. On va maintenant parler de ta course épique. On est là pour ça. C'est le Lavaredo Ultra Trail. Mm-hmm. Je vais la présenter en quelques mots et planter le décor donc, de cette course sur laquelle tu as préparé il y a quelques semaines. C'est tout près. Ça date de la fin du mois de juin. Mm-hmm. Reconnue donc comme étant l'une des plus belles épreuves au monde en plein cœur du massif des Dolomites en Italie, le Lavaredo Ultra Trail prend son départ chaque année depuis 2007 à la fin du mois de juin de la très renommée station alpine de Cortina d'Ampezzo qui a par ailleurs été le cadre des JO d'hiver de 1956. Tu le savais peut-être?
Oui, ils en sont très fiers. Et puis ils sont aussi très fiers de recevoir les JO en 2026, je crois.
26, ouais. Ouais. Ils devaient les avoir en 1944, ça a été décalé pour les raisons qu'on peut imaginer. C'est pour ça que ça a été 1956 la première. Et effectivement, okay. 70 ans plus tard, retour à la case Cortina. Cette grande fête du trail, donc, elle fait désormais partie du circuit UTMB World Series. Elle propose quatre distances allant de 20 à 120 km, et notamment donc sa course phare qui affiche une distance de 120 km pour 5800 mètres de D+, c'est celle à laquelle tu as pris part. Au total, on compte près de 5000 coureurs de 65 nationalités différentes qui vont s'élancer sur les différentes courses de ce Lavaredo, dont environ 1500 sur son format ultra trail. Les coureurs s'élancent dans le cadre idyllique, stimulé au son de The Ecstasy of Gold, l'un des thèmes les plus connus d'Ennio Morricone, que vous avez forcément entendu dans le film Le Bon, la Brute et le Truand, si vous êtes fan de western, et pas seulement d'ailleurs, le film est tellement connu et apprécié. La course qui attend ensuite les coureurs est visiblement aussi éblouissante, je ne l'ai pas faite, mais en tout cas par sa beauté et sa réputation, qu'elle est également terrible par ses difficultés, les derniers coureurs devront réussir à boucler la course en moins de 30 heures. Voilà en quelques mots ce qu'il faut avoir en tête sur ton Lavaredo, c'est conforme à ce que l'impression que tu en as.
Ah oui, et puis tu viens de... Je ne connaissais pas l'histoire de la BO, mais je comprends du coup que ça ait flingué dans tous les sens aux avant-postes si c'était une BO de western. Parce que...
Il paraît que le décor est très western de toute façon, les Dolomites et les passages par lesquels, en tout cas certains des passages de la course évoquent clairement... L'Ouest
avec
américain.
Un shérif du coup qui portera le nom de Hannes Namberger qui a mis tout le monde d'accord,
l'homme qui court plus vite que son nombre.
Ouais.
Baptiste, c'est un moment beaucoup moins drôle maintenant puisque c'est l'heure de la question qui pique de course épique. Mmh. Donc c'est une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Voilà ma question pour toi. Lors d'une balade dans les Dolomites en 1991, il y a deux randonneurs allemands qui sont tombés sur un homme de 45 ans qui mesurait 1m65, qui pesait 50 kilos, qui avait des tatouages, une barbe, des yeux bruns enfoncés et un visage plissé, des joues creuses et des dents écartées. Est-ce que tu aurais une idée de ce qu'avait de si particulier cet homme?
Alors là, non, je...
C'est très difficile, c'est très difficile.
Je donne ma langue à l'animal que tu souhaites, je ne sais pas.
Okay. Et ben, c'était une momie, okay. Figure-toi. Ils ont découvert Ozzy, qui était également appelé Ozzy l'homme des glaces, qui a été découvert donc allongé à plat ventre au bord d'un lac qui était situé à environ 3000 mètres d'altitude. Et en fait, il a été conservé naturellement par 5000 ans de soleil, de vent et de température négative. Et donc, sa dépouille, quand elle a été découverte, a fait immédiatement sensation, puisque c'était le plus vieil homme qui ait jamais été retrouvé intact. Donc, certaines momies égyptiennes sont plus âgées, mais leur cerveau et leurs organes internes ont été retirés lors du process de momification. Et donc lui, grâce à sa parfaite conservation dans la glace, il a offert aux scientifiques et aux chercheurs le meilleur spécimen d'homme de plus de 5000 ans qui existe à ce jour. Et donc voilà, ils ont fait plein d'analyses, ils ont réussi à trouver sa pointure, la couleur de ses yeux, son dernier repas. Donc je peux t'en parler, il a mangé des barres ou des gels, mais, ouais. Mais de la viande de chamois, du cerf rouge et du pain aux herbes. Il avait aussi la magazine de lime. Enfin voilà, on sait plein de choses sur lui. On n'a pas trouvé de traces de sucre, par contre, effectivement, dans son estomac. Il était aussi intolérant au lactose. Bref, on sait plein de choses de cet homme. Donc, c'était pas très facile. Je m'excuse pour cette question. En tout cas, j'espère et je le souhaite à Otzi que Ils ne se sont pas retrouvés congelés à cette altitude après s'être perdus suite à une erreur de balisage sur la toute première édition du Lavaredo en l'an moins 2900. C'est aussi une possibilité peut-être qu'il y avait des courses à l'époque et qu'il y a eu une erreur de balisage qui a fait qu'il a fini congelé et qu'il s'est perdu dans la hauteur. Je ne sais pas.
Et
je
c'est
ne
peut-être pour pas. Ça, ça expliquerait le fait qu'ils sont extrêmement pointilleux du coup sur le balisage depuis.
Ouais, il n'avait peut-être pas pris son matériel obligatoire à l'époque. C'est
ni
possible.
Sa trace GPS.
Bon, je t'ai pas gâté, mais je trouvais ça intéressant en tout cas. Moi, j'ai découvert ça avec plaisir, en tout cas en creusant un peu sur des anecdotes propres au Lavaredo. Baptiste, on va parler maintenant de ta course épique, qui est le sujet qui nous intéresse. Tu l'as évoqué à de nombreuses reprises, la Transgrande Canaria, ça a été ta première apparition sur un format ultra. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton rapport d'étonnement sur la distance et puis les enseignements de cette première? Tu aurais fait pâlir de jalousie et jaunir de jalousie Pac-Man.
Oui, c'est vrai. J'avais un appétit glouton. La Transgrande Canaria, ça m'a fait découvrir, un état et des émotions que je connaissais pas. Déjà en amont de la course, un état de vulnérabilité, au sens où avant de partir sur cette ultra, je me suis senti terriblement démuni, mais je trouvais ça beau, c'est-à-dire qu'en fait tout le vernis qu'on peut avoir. Je me suis senti très très authentique dans mon quotidien tous les jours. J'essaye d'être en phase avec moi-même et d'être authentique, mais là je me suis dit vraiment, en fait, l'ultra, quand tu te retrouves sur la ligne de départ et que tu pars à l'assaut de ces montagnes hyper hostiles, en plus nous ils annonçaient vraiment une nuit dantesque, et tu t'y diriges tout seul, et ben en fait il n'y a plus personne qui fanfaronne, quoi. Tu te retrouves tout seul, et donc j'ai découvert cette petitesse de l'être humain face à la grande dame nature, et ça rend ultra vivant. Et en fait, je me suis dit, bon, en fait, tu as choisi d'être là, maintenant, tu... en fait, c'est une chance d'être là, mais t'assumes, et en fait, tu peux faire confiance un peu qu'à toi-même. Et donc, du coup, j'ai découvert, c'est hyper intense, parce que du coup, t'es vachement connecté à tout ce que tu fais, et tu découvres un peu des compétences, des capacités. Tu t'étonnes, tu te surprends, et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu au cours de la Transgrande Canaria. Contrairement au Lavaredo, je suis parti en gestion, donc dans le deuxième pack, celui des Pac-Man, du coup. Et en fait, je pense que de par son positionnement dans le début du calendrier, c'est-à-dire en mars, pas tout le monde est encore prêt. En fait, il n'y a que ceux qui peuvent s'entraîner en montagne, donc c'est-à-dire ceux qui bénéficient d'un climat méditerranéen, qui peuvent s'entraîner en montagne. Et donc, du coup... cette course d'attente et de gestion, elle m'a mené à la quatrième place. Et en fait, c'était juste inattendu, incroyable de vivre ça de l'intérieur. Mais j'estime qu'en termes de performance purement sportive, c'était un petit peu moins abouti que celle du Lavaredo, où là, tout le monde était sur un pic de forme et où j'ai couru beaucoup accompagné. En fait, j'ai vécu une vraie compétition, alors que la Transzone Canaria, j'ai fait les 4-5e tout seul.
Et tu as fini à la quatrième place, je ne crois pas.
Exactement.
Que pour nos auditeurs qui ne sauraient pas.
Exactement, j'ai échoué, j'ai réussi à finir à une quatrième place qui était, je pense que j'en ai rêvé, mais voilà, qui était vraiment inattendue, à seulement 5 petites minutes du podium, et je n'ai pas réussi à... Mais ça, ce sera un sujet, je ne sais pas, à évoquer à un moment donné, mais c'est quand on se fixe un objectif, quand on est en train de l'atteindre, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas encore la capacité à trouver le supplément d'âme pour aller chercher encore plus loin que cet objectif. Là, au Lavaredo, je voulais faire moins de 13 heures, moins de 12h45 dans un scénario optimal et idéal. Quand on m'a dit que j'étais sur ces bases-là, j'étais pas prêt à tout perdre pour aller chercher la troisième place. Et donc, du coup, j'ai pas tout mis. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le fait de prendre des risques ou de perdre sa chance à l'instant où elle se présente tout à l'heure.
Cette tentative et cette première sur l'ultra, est-ce que pour toi c'était une étape naturelle? Est-ce que c'était en soi un graal ultime, ou c'était simplement une extension un peu de ton terrain de jeu?
Non, c'est un vrai objectif, une véritable envie que j'ai depuis le début. En fait, depuis que j'ai découvert le trail, ce qui me tente, c'est l'ultra trail, et c'est juste que je me suis construit patiemment la capacité de courir ces distances-là. J'ai la chance d'être dans la structure du Team Sidas Matrix. On est extrêmement bien accompagné. On est vraiment en fait au centre d'un écosystème de performance. Et en fait, la première question qu'ils m'ont posée, c'est où est-ce que tu veux être dans 3 ans? Et ben, je leur ai dit, dans 3 ans, je vais être en mesure de courir de façon d'être compétitif sur Ultra Trail. Ils m'ont dit, OK, bah voici le plan de route. Et donc, du coup, j'ai fait première année des 40, 50 kilomètres. Notamment, je fais donc 3e au championnat de France à Méribel sur un format de 6 heures de course et je fais 6e à l'OCC sur pareil, 5-6 heures de course. La deuxième année, je vais plutôt sur des formats 6, 7, 8 heures. Après, il y a le confinement qui fait qu'il n'y a plus trop de compétition, mais j'allonge un petit peu la distance. L'année dernière, en 3e année, je découvre la CCC, un format 10 heures, 10-11 heures que je ne considère pas comme un ultra, parce que pour moi, il n'y a pas la nuit dehors et un ultra, ça se définit par la nuit que tu passes dehors, enfin, selon ma perspective. Et en fait, cette année, du coup, tout naturellement, je me suis dirigé, en fait, enfin, vers ce pourquoi je me prépare depuis 4 ans, 3 ans.
Est-ce que tu pourrais nous raconter pourquoi et comment le Lavaredo il trouve sa place sur ton agenda cette année? Est-ce que c'était la construction était déjà prévue comme telle? Est-ce que c'était cette course en particulier qui t'intéressait? Est-ce que c'est un choix qui est propre et personnel? Est-ce que c'est aussi dans une logique de construction et concerté avec ton équipe? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé à un moment sur ta route?
Alors en fait, suite à ma blessure qui fait que je n'ai pas pu courir la Saint-Élion l'année dernière, je me suis dit, bon, bah, il faut que je me trouve un objectif en mars, parce qu'il faut que je trouve une motivation pour l'hiver. Et ça y est, en fait, ça, c'est le signe qu'il faut que j'aille sur cet ultra. Je ne peux plus attendre, j'en ai marre d'attendre. Il faut que j'y aille, il faut que j'aille découvrir l'ultra. Et du coup, naturellement, la Transgrande Canaria, c'est le plus gros événement ultra trail d'Espagne. Et puis, je me suis dit, ah bah tiens, est-ce que j'irais pas aussi courir le plus gros événement ultra trail d'Italie pour finir par le plus gros ultra trail, enfin l'événement en tout cas, le plus gros en France, et boucler un petit peu la boucle de ces pays qui sont finalement le berceau de nos disciplines, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie et la France. Et donc du coup, j'en ai fait mes 3 objectifs de saison parce que ça matchait parfaitement. Un objectif en mars, un mois et demi pour vraiment récupérer, mai-juin pour se préparer pour le Lavaredo en Italie, et puis en fait à nouveau pareil, 2 mois pour se préparer pour la CCC. Donc en termes de planning, d'envie et de symbolique, ça matchait parfaitement.
Comment elle s'est organisée, ta prépa pour ce Lavaredo? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient notablement différentes de ce que tu avais pu entreprendre sur la Transgrande Canaria?
Alors la Transgrande Canaria, du fait de ma blessure, une fracture de fatigue au sacrum, j'ai pu courir que assez tardivement. La fracture est survenue fin octobre. J'ai pu seulement recourir je dirais mi-janvier, mais vraiment en alternant marche et course à pied. Donc disons que j'ai commencé à allonger les sorties en course à pied seulement en février. Donc du coup, la course était en début mars. J'ai eu que 2-3 semaines vraiment pour vraiment beaucoup courir. J'ai compensé en faisant énormément de ski fitness. Alors c'est pas du ski de randonnée parce que moi j'ai pas, ou du ski alpin parce que j'ai pas les skills techniques pour aller sur des arêtes et tout, mais par contre j'adore remonter les pistes, remonter les itinéraires balisés et manger du dénivelé comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable, j'ai adoré, et ça m'a donné une bonne base foncière pour la Transgrande Canaria. A contrario, le Lavaredo, j'ai pas eu de pépins physiques, donc j'ai pu vraiment faire une prépa tournée vers la course à pied et le vélo avec pas mal de volume en montagne. Donc je pense que la Transgrande Canaria, c'est une prépa atypique. Le Lavaredo, ça va se rapprocher des prépas que je vais poursuivre pour les prochains ultras.
Il y a une des briques essentielles dans ta préparation et dans l'avant-course qui est la visualisation. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais nous en rappeler un peu les principes pour les béotiens? Enfin, moi, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas très bien. Et toi, comment tu te l'appliques concrètement dans des situations de course et puis notamment dans le cadre de Slavaredo, comment, voilà, que dit la théorie et puis comment se traduit la pratique? Selon Baptiste Chassagne.
Ça, je vais mettre entre guillemets parce que j'ai peur que du coup, je vais pas donner la définition de la visualisation, je vais te dire ce que moi j'en ai compris.
Comment voilà, tu l'appropries, ouais.
Pour moi, la visualisation, c'est comme on l'entend, c'est visualiser sa course, c'est se projeter sur les moments de course et d'y affilier des attitudes, des émotions propres à chaque moment de la course pour qu'en fait, comme tu les as préparées et tu les as pensées en amont, à l'instant où tu es dans le présent, ils se mettent en place de façon automatique et de façon mécanique en fait.
Est-ce que ça veut dire avoir une image très claire de la réalité enfin, du panorama de ce que tu vis à ce moment-là, ou c'est juste se dire, ok, bah là c'est le kilomètre 50 et c'est après le ravito 2, peu importe à quoi ça ressemble à ce moment-là, je sais que ce moment-là de la course, je dois être dans telle disposition ou imaginer telle ou telle chose, ou est-ce que c'est vraiment une projection aussi très visuelle à proprement parler?
Alors en fait, moi je la pratique avec donc, ma préparatrice mentale, Anne, qui nous met dans un état, c'est pas un état d'hypnose, mais c'est un état vraiment de relâchement profond, et en fait je laisse les images venir. Donc ça dépend vraiment de la course et du mood du moment. Parfois c'est extrêmement clair, et parfois je vois par exemple à travers mes yeux ce qui se passe, et parfois je me vois courir moi comme si j'étais un spectateur. Parfois je vois des instants très 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 précis et des moments clés, parfois je vois plus des portions et des segments. Donc c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de schéma récurrent, si ce n'est le fait de se mettre dans un état de relâchement profond et de visualiser, de se laisser emmener, de se laisser prendre par la main, par ma prep mentale.
Et est-ce que ça veut dire que, je te pose plein de questions parce que le sujet m'intéresse, mais est-ce que ça veut dire que tu peux observer un décalage parfois, enfin est-ce que ça peut être perturbant entre ce que tu avais imaginé, visualisé, et puis la réalité de ce que tu vis? Est-ce que ça peut créer aussi... finalement un inconfort ou une espèce d'état de surprise parce que finalement c'est pas comme tu l'imaginais ou qu'à ce moment-là t'es pas exactement toi comme tu pensais être. Est-ce que ça peut aussi avoir un effet pas nécessairement bénéfique, plus perturbant?
Je vois ce que tu veux dire. Moi j'ai de la chance aujourd'hui, c'est que tout ce que j'ai visualisé s'est produit. Pourquoi? Parce que je pense que l'objectif que je me suis fixé à chaque fois, il était ambitieux mais réalisable, c'était un bon objectif. Si je m'étais fixé un objectif trop haut, certainement que la visualisation pour l'atteindre n'aurait pas été la bonne, et donc forcément bah, je serais sorti de mon schéma le jour de la course. C'est pour ça qu'en amont de la visualisation mentale, on travaille vraiment sur la définition de l'objectif, et ensuite on visualise le chemin pour y aller. Et ensuite, j'ai envie de dire pour s'assurer que le jour de la course, on ne soit pas désarçonné par des faits de course qu'on n'avait pas anticipés, et ben Anne nous fait faire toutes les options, les pires cas, quoi. C'est-à-dire que s'il se passe ça, comment je réagis? Donc en fait, on a le chemin idéal de notre visualisation, et en plus, on a les roues de secours au cas où on a un problème.
Très clair, merci pour ces éclaircissements, c'est un sujet intéressant. Ton principal objectif sur la course et donc sur ce Lavaredo, c'est la position, c'est jouer la gagne, c'est plutôt un temps parce qu'il y a une start list qui est extrêmement relevée, tu nous l'as dit tout à l'heure. Toi, tu viens avec quelle ambition?
Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment pas la prétention de... pas encore la prétention de jouer devant... Je suis fan de sport, comme je te disais, et du coup, je peux faire une référence à la boxe. C'est que j'ai conscience qu'aujourd'hui, il y a les poids lourds, les Hannes Lamberger, les Pau Capel, du côté français, citer François Daen, Thibaut Garivier, Xavier Thévenard. C'est pas mon combat, en fait, eux, pour le moment. Moi, je suis plutôt chez les poids mouches, pas les poids plumes, les poids mouches. Avant, j'étais poids plumes, maintenant, j'ai fait un peu de PPG. Et du coup, l'objectif, c'est de juste valider une progression. Et donc, dans ce cadre-là, comme le Lavaredo, c'est toujours le même parcours, ça j'adore en fait ces courses où il y a toujours le même parcours. Alors, il y a les aléas des conditions climatiques, mais c'est plus ou moins toujours la même chose en juin dans les Dolomites, sauf cas majeur. Et donc, du coup, je me suis fixé par rapport à la Côte Itra sur un chrono qui me donnerait une belle course, c'est-à-dire 870 de Côte Itra, c'est 13 heures. C'était mon objectif initial, parce que je me disais, faire ce chrono-là, ça confirme, on va dire, la Transgrande Canaria, c'est bien. Et puis, il y avait la petite cerise sur le gâteau, qui aurait été 12h45, parce que ça, c'est à peu près 890 de Côte Itra sur toutes les éditions passées. Et je me suis dit, bon, bah ça, c'est un tout petit peu mieux que ce que tu as fait à la Transzone Canaria. Ce serait vraiment le Graal, on va dire. En fait, en gros, ce serait passer un nouveau cap. Et donc, du coup, je me suis vraiment mis dans le mood moins de 13 heures dans une belle journée et dans une grande journée, moins de 12h45. Donc, j'ai couru après... j'ai couru pour un chrono. Sachant que, en fait, si tu regardes toutes les éditions, quand tu fais ce chrono-là, t'es jamais très loin du top 5.
Ta stratégie, elle était donc principalement guidée par cette idée de temps, ou est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu avais intégrés, peut-être notamment quand même cette idée de suivre un groupe de tête et de te mêler quand même à cette bagarre-là dès le début?
Oui, exactement. J'avais ma stratégie, donc c'était le temps, et ma volonté, c'était de passer un tout petit cran supplémentaire en termes de prise de risque par rapport à la Transgrande Canaria, où j'étais rapidement monté dans le deuxième wagon au bout de 2 heures. Là, je me suis dit, allez, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin avec les champions pour juste voir. En fait, c'est hyper intéressant de courir avec eux, de voir comment ils agissent, voir ce qu'ils font. Je me suis dit, OK, je monte dans le wagon 1 un peu plus longtemps et je prends un peu plus de risques, quitte à... à souffrir un peu plus derrière.
C'est un sujet que j'aborde pas tant que ça dans le podcast, et parfois on me le fait remarquer d'ailleurs. C'était quoi le plan que tu avais défini en termes de nutrition? C'était quoi l'idée globalement? J'imagine que tu avais aussi bien structuré tout ça.
Oui, c'est en fait le team, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment génial. C'est vraiment une structure de performance. Donc on est au centre et ils nous mettent des ressources à disposition. Et dans ces ressources, on a un jeune nutritionniste, un jeune talent qui s'appelle Jocelyn Guyot, qui m'a accompagné en fait sur la construction de mon plan de nutrition. Les grandes bases, c'était 70 grammes de glucides par heure et on va dire à minima 50 centilitres, 75 centilitres de boisson. Voilà, c'était un peu la stratégie, on va dire, de nutrition. Et après, donc moi, je suis athlète Baou et j'adhère à fond aux valeurs de la marque, mais surtout aux produits. Donc j'ai mangé pas mal de bars. J'ai mangé 10 bars Baou et 18 compotes, pour te dire. Donc un vrai Dyson à Baou, si tu veux, un vrai aspirateur.
On parle de toi, tu as évoqué cette idée de structure. Est-ce que tu peux nous parler de ton entourage? Donc il y a l'équipe et puis il y a aussi la famille qui est venue avec toi.
Ouais.
Qui t'entoure?
Je crois que ça, c'est ma plus grande chance et ma plus grande force. C'est que j'ai un cocon familial qui est incroyable, juste ultra épanouissant. Si je te délivre comment moi je le vis, pour rentrer un peu dans l'intime, j'ai une connexion extrêmement forte avec mon père, et donc du coup il y a une grande grande complicité qui peut parfois faire des étincelles forcément quand t'es très proche.
Est-ce qu'il te ramène l'équipe encore tous les soirs à la maison?
On n'habite plus ensemble, mais quand on part en vacances ensemble, franchement, s'il n'y a pas l'équipe, clairement, ouais, c'est un sujet. Mais tu sais qu'à une époque, il en achetait même 2 parce qu'il n'aime pas lire l'équipe déjà ouverte. Donc, il en a acheté 2 pour moi et mon frère, pour qu'on ait chacun qui n'ait pas de...
Une équipe immaculée.
Voilà, exactement, dans un souci diplomatique. Et du coup, ma mère, elle est pareil, je suis hyper proche, mais elle s'en fout un peu du trail. Elle veut juste que je sois épanoui. Donc en fait, c'est un peu mon père, c'est l'eau, c'est le feu, et ma mère, c'est l'eau, elle m'apaise. Et ensuite, j'ai la chance d'être ultra proche de mon frère et de ma sœur. Mon frère, on a partagé la même chambre jusqu'à assez tard. On a un an d'écart, on a exactement les mêmes passions. Il veut faire médecin du sport. Et ma sœur, là, on a 7 ans, 8 ans de moins, mais je sais pas, je l'admire, je la trouve pleine de peps. Et elle s'en fout aussi un petit peu du trail. Et du coup, il m'apporte ce contre-pied, enfin, cette force qui, justement, me permet de déconnecter et vachement équilibrer mon projet. Donc, cet entourage familial, j'y puise énormément d'énergie et d'équilibre. Et je me sens extrêmement chanceux de l'avoir, oui.
Ça y est, visualise. Nous sommes le vendredi 24 juin 2022. Il est bientôt 23h. Comment est-ce que tu vis ces instants qui précèdent le départ? Est-ce qu'il y a une pression additionnelle au regard de ta préparation qui a été aboutie et puis des belles promesses qu'il faut désormais confirmer à l'épreuve des sentiers?
Oui, je me souviens de la phrase que j'ai prononcée quand je suis parti. On avait un logement du coup avec tout le team juste à côté du départ. Et la dernière phrase que j'ai dit, c'est ouais, j'ai peur, mais je suis prêt. Et c'est exactement ça. J'avais peur, mais je me sentais prêt.
Peur de quoi ?
Je me sentais vulnérable. Quand tu pars tout seul en montagne, qu'ils annoncent des grosses variations de température sur un terrain qui vient d'être humidifié par pas mal d'orages, c'est hostile. Enfin, c'est beau, mais la montagne, c'est hyper hostile, d'autant plus la nuit, d'autant plus quand tu essayes d'aller vite en montagne. Enfin, ouais, c'est peur aussi de me décevoir. Parce que ma préparation avait été bonne, et donc ça rejoint ce que tu disais, quand ta préparation elle est bonne, t'as un petit cran de pression supplémentaire, parce que tu te dis, j'ai les armes pour lutter aujourd'hui, j'ai les armes pour faire quelque chose de bien, donc en fait, j'ai la pression de bien les utiliser. Et donc, du coup, j'avais cette peur-là, mais en même temps, j'étais prêt. Ma préparation, elle avait été bonne, elle avait été épanouissante, et j'avais le sourire. Je m'apprêtais à faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire courir longtemps en montagne. Donc, franchement, c'était un chouette moment, cette ligne de départ. J'avais le sourire sur la ligne de départ.
Baptiste, je te propose d'ouvrir donc le premier grand chapitre de la course. Et quand je parle de grand chapitre, ce n'est ici rien de moins que les 42 premiers kilomètres dont il s'agit. Tu fais donc le choix de te lancer dans un début de course à un rythme soutenu. Donc, l'idée est très claire d'emblée, c'est t'accrocher à la tête de course.
Oui, alors pas l'idée... La volonté, c'est celle-ci, mais c'est pas non plus. Je garde quand même une petite capacité d'ajustement, c'est-à-dire que si je vois que ça met vraiment dans le rouge, je vais pas suivre non plus. C'est-à-dire que j'accepte de suivre le peloton des favoris dans la mesure où je reste dans la zone orange, sans franchir le no man's land de la zone rouge, dont on revient jamais ou très difficilement. Et donc du coup, ça m'amène. Au kilomètre, effectivement, jusqu'au premier ravitaillement assisté, au kilomètre 42, au bout de 4 heures d'effort. Et au début, les deux premières heures, je suis pas mal, je suis bien, bon, je sens qu'on avance quand même, mais j'ai pas l'impression de partir si vite que ça. C'est plutôt entre la deuxième et la quatrième heure où en fait, j'ai compris en fait, comment les meilleurs ils courent en ultra, c'est qu'ils partent à un rythme. Un tempo soutenu, mais c'est qu'en fait, ils lèvent jamais le pied, quoi. Et en fait, ils ont tendance à appuyer sur la pédale, et en fait, ça va crescendo. Et en fait, on était 15 au bout de 2 heures, ouais, peut-être 20 au bout d'une heure, 15 au bout de 2 heures. Et en fait, plus ça avançait, plus le groupe s'égrenait, et le train dont je parlais, il perdait des wagons. Et donc, du coup, moi, je me mets dans un objectif d'arriver au premier ravitaillement avec eux, avec les favoris, et ensuite de voir, d'aviser, et ensuite d'entrer dans ma course. Je me dis, ok, de toute façon, t'es monté dans le train, maintenant t'assumes, et on va jusqu'au premier ravitaillement, et on verra. Et en plus, là, du coup, on arrive à 10, à un point d'eau où justement, il n'y avait pas beaucoup de bénévoles. Et ils n'avaient pas prévu ça, en fait. D'habitude, je pense que ça arrive plus au compte-gouttes. Et donc, du coup, on se rue tous sur les bouteilles d'eau pour vite tous remplir. Moi, je n'ai pas l'expérience, donc j'arrive le dernier du groupe.
Sachant que tu étais à sec depuis la dernière heure.
Exactement.
En plus.
J'avais mal fermé ma gourde. Et donc, du coup, en fait, c'est là où tu apprends les choses. C'est-à-dire que la prochaine fois, je sais qu'il y a un ravitaillement à point d'eau. Je sais que si on arrive en groupe, je fais l'effort pendant une minute pour me positionner et être le premier à arriver. À arriver à ce point d'eau. En fait, c'est que des petites choses comme ça et je suis content de les avoir expérimentées parce qu'à l'avenir, je les mettrai en place. Et donc là, j'arrive au ravitaillement numéro 1 et là, je suis quand même déjà pas mal, je suis un peu amoché quand même, je pense. Et du coup, je le vois, j'ai pas de glace ni de miroir, mais je le vois dans le regard de Thomas parce que je vois qu'il est assez inquiet et il se dit, ah ouais, en fait, j'ai un syndrome de Raynaud en plus, donc j'ai très froid aux mains. Il faisait entre 0 et 5 degrés, il y avait un peu de vent, il pleuvait. Et du coup, moi, je ne peux rien faire avec mes mains quand il fait ces températures-là. Donc, j'ai du mal un petit peu à m'alimenter. Bref, je vis un moment un peu compliqué. Et à partir de là, je me dis, ok, je vais rentrer dans ma course et je vais faire ma course de gestion et on verra.
Tu prends le temps de te changer parce que tu redoutes un peu, justement, un petit coup de poids en haut du col de Trecimé, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est exactement ça, je pense qu'en ultra, il y a pas mal d'erreurs. C'est marrant, moi je suis un peu nouveau dans cette discipline, mais je préfère prendre 2-3 minutes supplémentaires au ravitaillement plutôt qu'en fait d'aller au casse-pipe parce qu'il va faire super froid là-haut et parce que j'aurais pas suffisamment à boire et pas suffisamment à manger, quoi.
Tu repars de ce ravito avec un partenaire de course qui est bien connu de ce podcast et qui, pour l'occasion, n'était pas encore dans son bain, alors la personne de Mathieu Blanchard. Vous trouvez assez naturellement un format de collab et d'entraîne, en fait, qui vous va bien à tous les deux, sans forcément d'ailleurs le verbaliser, mais voilà, assez naturellement, il y a une osmose qui se crée entre vous deux.
Carrément, je pense que c'est... On repart ensemble, en fait, de ce ravitaillement-là. Je pense que lui aussi, il avait un petit peu... Il avait été un petit peu émoussé par le départ rapide. Donc il s'est dit, bon là, il reste 80 km. Vu le rythme auquel on est parti, c'est sûr que ça va exploser devant. On va un peu gérer, on va un peu temporiser. Et il se trouve que c'est plutôt chouette de trouver un compagnon d'aventure quand tu pars au-devant des traits de chimée à 3h du mat par 0 degré. Donc je pense que c'est un peu... on a été tout contents de trouver un bon compagnon de fortune ou d'infortune. Ça dépend. Moi, c'était plutôt un compagnon de fortune. Et
ça apporte quoi? C'est un truc presque irrationnel, enfin, c'est de la sécurité, c'est de la motivation, ça, qu'est-ce que ça vient apporter quand on sait parfois, notamment, ça n'a pas verbalisé, pas forcément exprimé, le fait de savoir que tu es avec quelqu'un qui est aussi potentiellement un rival avec les guillemets qu'il faut, mais quel bénéfice tu
as cité le mot, c'est sécurisant pour plein d'aspects. C'est sécurisant sur l'aspect purement hostilité dont je te parlais tout à l'heure, partir à deux en haute montagne, puisqu'on allait franchir, on allait monter jusqu'à 2500 mètres, voire même peut-être 2500 mètres d'altitude. C'est toujours mieux de partir, je trouve, accompagné dans ces zones-là. Et puis c'est sécurisant aussi sur le rythme de course, parce que Mathieu, moi je savais qu'il avait fait 3 à l'UTMB, je savais qu'il avait fait 4 au Mute, je savais qu'il... Voilà, il était je sais pas si c'était parmi les favoris, mais pareil, il était parmi les gros outsiders de la course. Donc je savais que si j'étais avec lui, c'est que j'étais plutôt dans le vrai, et je pense qu'il est aussi expérimenté, donc je savais qu'il allait pas à l'explosion, quoi. Donc du coup, et puis
c'était un bon marqueur, super marqueur.
Et puis cerise sur le gâteau, c'est que c'est un Français, on était peu de Français sur cette ligne de départ, et je me retrouve, je pense, dans les 20 favoris, on va dire, au ranking, on était deux Français, et en fait on se retrouve ensemble, enfin disons que c'était plutôt un fait de course favorable et un petit clin d'œil que moi j'ai pris comme un truc un peu positif. Et donc du coup on avance, là on file bon train, on a passé toute la montée ensemble, et en fait on a passé quasiment toute la course ensemble, ouais, après.
C'est, j'imagine, plutôt bon signe, mais ce début de course, et c'est maintenant 5h30 de course, tu les as pas vus passer vraiment?
Non, je les ai pas vus passer, contrairement à la Transat de Canaria où j'étais beaucoup plus observateur. Là, comme j'ai été dans l'effort, en fait, dès le kilomètre, je dirais 1, je suis plus focus sur mes baskets, mon rythme, le fait de pas faire d'erreur, je suis vraiment dans ma course, le fait de bien m'alimenter, je suis concentré. Et du coup, comme je suis concentré, je vois pas le temps passer. Par contre, je vois les kilomètres qui défilent et qui font mal aux jambes.
Les signaux, ils continuent d'être favorables sur ce début de course, alors que vous abordez la descente depuis près de Chimay. Puis c'est aussi un passage de nuit, donc tu peux compter sur l'aide de Mathieu, mais pas seulement de lui, mais aussi de son matériel et puis notamment de sa lumière, puisque toi, tu as eu un souci avec ta frontale. Est-ce que ça soulève des difficultés particulières? Est-ce que ça te fait épuiser plus? Et le fait de redoubler d'attention sur le terrain, parce que tu dois jongler avec le matos de Mathieu qui est à tes côtés. Est-ce que c'est... Ça rend les choses plus complexes et ça te bouffe un peu d'énergie et d'attention.
Oui, forcément, mais ça développe des compétences aussi. Enfin, moi, mon coach Simon, il me dit toujours que le trail, c'est un sport d'adaptabilité. Et en fait, je me suis dit, ok, ça c'est un fait de course, il faut que je m'adapte. Et puis en plus, j'avais un peu de chance, c'est que le soleil se levait vraiment. Donc, c'était de la pénombre, c'était l'aube, c'était la pénombre de l'aube. Donc, on commençait à bien voir. Mais effectivement, ouais, on va dire que Mathieu, ça a été mon phare pendant la longue descente sur Sima Banché, effectivement. Et du coup, ça m'a permis de rester avec lui, de faire une descente propre, parce que je ne voulais surtout pas qu'il parte. Parce que s'il partait et qu'il mettait une grosse descente, et il partait sans moi et que je n'étais pas en mesure de suivre, là, pour le coup, j'aurais été vraiment seul et démuni. Donc, ça m'a forcé à maintenir un tempo. Et non, c'était... Je l'ai transformé, je pense, en opportunité.
Il y a ensuite un passage clé qui s'offre à vous entre les kilomètres 60 et 67, qui est une partie très roulante du parcours sur laquelle vous filez à très très bon train.
Oui, c'est la seule partie du parcours que j'avais repéré en amont en étant arrivé à J-3, parce que Camille Bruyat, qui a gagné la course l'année d'avant, fait fonctionner la solidarité stéphanoise et elle m'avait envoyé un petit message de conseil ou de méfier du froid et des variations de température, c'est vrai qu'il faisait très froid, très chimé, mais surtout d'en garder sous le pied pour cette portion de 7 km de plat sur une piste de gravel en fait. Donc c'est, faut s'imaginer vraiment un grand chemin très large, carrossable, très propre, à 2-3% de moyenne, qui monte quand même et qui en fait n'en finit pas. Et je savais que là, ceux qui étaient partis trop vite, ils allaient être punis, ils allaient être sanctionnés, parce que en fait, quand tu peux pas courir sur ces parties-là, bah tu perds énormément de temps. Moi, j'avais regardé un peu les temps de passage des années précédentes. Ils couraient à 12-12,5 km/h sur cette portion-là. Et là, je vois qu'avec Mathieu, on est plutôt aux alentours de 13-13,5. Et puis, je sens que ça va bien et que moi, je retrouve vraiment de l'énergie.
Vous arrivez donc après ce tour de force au deuxième gros ravito qui est au kilomètre 67. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu te sens à ce moment-là? Et puis, c'est aussi, comme à chaque point de passage, un temps d'échange privilégié, notamment avec Thomas, ton team manager. Est-ce que tu peux nous raconter aussi quel impact ça a là, quand on a quelques heures de course dans les pattes, ces moments-là, ces discussions, est-ce que ça apporte un élan et un souffle vraiment très tangible? Est-ce que ça a un reboot aussi mental très fort?
On les attend en fait avec impatience. Moi, je découpe mes courses en fait en fonction de ces moments-là. C'est-à-dire, premier chapitre, c'est toute la partie où je vais être seul. Deuxième chapitre, c'est toute la deuxième portion où je vais être seul. Et en fait, j'avise en fonction de tous ces segments. Et donc, du coup, là, si ma banchée, kilomètre 67, c'est considéré comme le courmailleur, on va dire, du Lavaredo, c'est le point de bascule où on va dire qu'une grande majorité des favoris peuvent mettre le clignotant, parce qu'ils savent que ce qui reste derrière, c'est encore hyper copieux et qu'en fait, ils ne vont pas atteindre le niveau de performance aujourd'hui qu'ils espéraient. Donc, ils arrêtent. Et c'est exactement ce qui se passe, puisqu'il n'y a pas au Capel qui arrête à ce moment-là. Moi, je vois ça. Je vois aussi Thomas qui me donne les infos, qui me dit que j'ai 12 minutes d'avance 8 minutes d'avance, 12 minutes en arrivant et 8 minutes en repartant du ravitaillement sur mon temps de 13 heures. Donc je suis plutôt dans un bon schéma de course et ça me galvanise. Donc je prends mon temps, je change de chaussures parce que je sais que si je le fais pas maintenant, je le fais pas après. Donc je prends le temps de changer de chaussures et je repars une minute, on va dire, derrière Mathieu. Mais donc je me ravitaille de glucides, de lipides, de minéraux, de tout ce que tu veux, mais je me ravitaille aussi de bonnes ondes, parce que bah là il y a mes potes du team qui sont là, Lucie Germain, Noé Roger, Simon Paccard, Alexandre Diol, et en fait ils me mettent le feu. Enfin moi en gros j'ai l'impression que là ça y est, je rentre dans Anfield Road ou genre Geoffroy Guichard, et que c'est, tu vois, ils chantent You Will Never Walk Alone. Bah là, j'ai compris qu'aujourd'hui, j'allais pas You Will Never Trail Alone, quoi. Et ça me donne de l'énergie. Et je repars. Et là, je me dis, OK, là, la course, elle peut commencer.
Tu repars, petite info classement, là, tu repars à la 11e place, donc de ce ravito. Tu l'as dit, les dispositions à la fois endogènes et exogènes, le contexte est totalement favorable. Le jour se lève après une période de pluie pendant la nuit. Là, le ciel bleu s'offre à vous, donc tout est plutôt bien. Assez rapidement, tu as la peau de Pau, puisque tu dépasses Pau Capel très rapidement après ce ravito. Et Mathieu, lui, a fait un pit stop un peu plus court que toi. Donc, il t'ouvre la voie.
Il a dû regarder Formula One sur Netflix. Il a fait ça vite.
et donc là, l'idée, c'est plutôt de revenir assez rapidement sur ses pas. Et puis derrière, vous avez... Vous lancez dans un musclé et solide mano à mano tous les deux?
C'est ça. Je le rattrape assez rapidement. Bon, je fais l'effort quand même. Là, j'appuie un peu. Et je le rattrape assez rapidement, alors qu'il avait, je pense, une bonne minute d'avance. Et là, je me dis, OK, donc il faut que quand je le dépasse, à, je dirais, 50 mètres de le dépasser, je récupère un petit peu, j'attends, un peu comme, comme un fauve qui va manger sa proie, et je me dis, je mange bien, et là, quand je le double net, comme ça, il ne s'accroche pas. Et c'est ce que je fais. J'ai l'impression.
Mais c'est mal connaître
Oh
Mathieu
ouais,
Blanchard.
exactement. Et là, il s'accroche. Et là, je me dis, oh là là, et il va me contre-attaquer ou quoi. Donc, je continue à appuyer. Puis, je sens qu'on avance quand même. Et au loin, on voit André Rodriguez, le Portugais, qui est en train de vomir, qui est donc pas très bien. Et on double aussi Péréorel, qui est en train de marcher sur le plat. Et donc, je me dis, en fait, c'est là où je switch. Et à nouveau, je prends on va dire, l'accompagnement de Mathieu comme une opportunité. Je me dis, en fait, c'est pas quelqu'un que tu vas avoir sur le porte-bagages et que tu vas tirer, c'est quelqu'un qui va te souffler dans le dos et qui va t'empêcher de lever le pied. Et à partir de ce moment-là, ben en fait, ça a été, on va dire, on l'a formalisé un moment, on a verbalisé, on s'est dit, ok, on est les deux petits Frenchies, on va aller chercher le top 5 tous les deux. Mais à aucun moment, on a commencé à s'entendre sur dire, on voit le top 5, on s'arrange ou quoi. Non, en fait, on se mettait quand même des grosses attaques dès qu'on pouvait, mais on savait, j'ai envie de dire, il y avait une sorte de contrat tacite en se disant, en fait, ce gars-là, Mathieu pour moi et Baptiste pour lui, du coup, il peut me permettre de faire une bonne course. Donc, c'est une sorte de rivalité, complicité, comme je n'avais jamais en fait connu en course. Donc, du coup, j'ai pris cette expérience-là.
Devant vous, se profile désormais ce que tu avais identifié comme le juge de paix de la course, le col des Hubos, qui est au kilomètre 80. Qu'est-ce que tu avais comme botte dans ton escarcelle pour en prendre la mesure? Tu avais
ouais,
préparé le coup?
j'avais préparé le coup, je m'étais dit dans ma visualisation, ce qui a fonctionné, c'est que c'est un moment, c'est le momentum de ma course, c'est un moment clé. Si j'ai une cartouche à mettre dans le barillet, c'est là qu'il faut que je la mette. Et en fait, c'est une montée, une longue montée d'1 heure et demie. Et du coup, j'avais dans l'optique vraiment là de me mettre en mode combat et de faire la plus belle montée possible et vraiment de jouer ma course sur cette ascension. Et Mathieu, il lâchait toujours pas. Mais finalement, moi, je vois que j'avance. On rattrape assez rapidement le sixième et le cinquième. Et donc là, on se retrouve 4 et 5. Et à partir de ce moment-là, moi, je sens que je peux basculer vers vraiment la course épique. Et du coup, c'est là que ça, j'ai envie de dire que c'est là que ça commence vraiment. Et ce qui est satisfaisant, ne serait-ce qu'à ce point-là de la course, c'est que j'ai réussi à mettre en place ma stratégie.
La difficulté est désormais engloutie. Comment est-ce que tu abordes les 40 derniers kilomètres qui restent, qui s'annoncent techniques, qui vont être en montagne? Est-ce que tu as le sentiment d'en avoir encore sous la semelle? Et c'est quoi l'ambition sur ce grand final à ce moment-là?
Alors j'ai encore, du coup, je pense que j'ai encore une cartouche. À ce moment-là, je le sais. Et j'attends juste, en fait, d'arriver au ravitaillement numéro 3 pour avoir un petit peu les temps de passage sur mes chronos. Donc j'arrive à... Là, j'ai lâché un petit peu Mathieu qui doit être 1 minute derrière, ou 30, 40 secondes. Et je veux juste avoir les infos, savoir comment je me positionne par rapport à mon objectif. C'est marrant, mais je pense pas du tout à la place. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le chrono. Je veux me prouver que je suis capable de faire un chrono comme Tim Tollefson, comme Pau Capell les premières fois il a couru le Lavaredo. Voilà, je veux me prouver que je suis capable de ça. Et donc du coup, je pense qu'à ça, la première question que je pose quand j'arrive au ravitaillement de kilomètre 95, c'est je suis comment par rapport à mes temps de passage? Et là, Tom me dit que j'ai 17 minutes d'avance. Donc en gros, je suis sur les bases de 12h45. Donc là, pour le coup, je fais un peu Formule 1. Je fais vraiment un arrêt rapide. Là, il y a tout le monde qui m'encourage. Tous les hooligans, là, ils sont là. Vraiment, ils me filent la patate. Et là, je repars, j'ai la rage au bide. Je me souviens d'ailleurs, j'ai un petit cri un peu genre de rage, quoi. Un peu animal. Et c'était chouette.
Tu t'élances donc pied au plancher. Alors, ce n'est pas l'objectif, la position, mais la réalité des choses, c'est qu'il y a quand même un coureur chinois, Chen, pour ne pas le citer, qui est en troisième position et qui n'est pas très loin devant, qui est à 4-5 minutes, je crois, à ce moment-là. Enfin, il y avait un peu une décision à prendre ensuite. L'idée, c'est plutôt de partir à l'offensive, Et tu vas tirer des enseignements de cette offensive pour ajuster la suite de ta course.
Exactement. En fait, j'arrive au ravitaillement 3, et c'est ça que je n'ai pas mentionné. En bas de la montée, j'ai 14 minutes de retard sur le podium. Au ravitaillement numéro 3, j'ai plus que 4 minutes de retard. Du coup, Tom me dit, t'es à 4 minutes du podium. Et en fait, cette information, je ne sais pas pourquoi, je l'assimile, mais j'arrive pas à en faire un énorme levier de motivation. Je reste hyper focalisé sur l'objectif que je m'étais défini de 12h45. Donc, je fais le forcing pour essayer de revenir sur lui, mais je mets pas tout en fait. Je joue pas all-in, quitte à perdre ce 12h45 que je vais potentiellement atteindre. Et en fait, ça se matérialise par le fait que j'arrive au ravitaillement numéro 4, le dernier, au kilomètre 105, 15 km de l'arrivée, et j'ai repris en fait. Chaîne m'a remis 5 minutes, donc en fait je suis à nouveau à 9 minutes, et donc du coup à la fois ça me rassure dans ma stratégie, à la fois ça me dit que en fait il me reste encore pas mal de choses à apprendre sur le fait d'être capable de jouer all-in à certains moments clés de la course. Je pense que le podium il se joue là, c'est que je suis pas capable à ce moment là de tout perdre. Je suis pas capable de mettre l'effort qu'il faut pour revenir à une minute de lui, qui me voit derrière, qui doute, et revenir sur lui, quitte à souffrir un peu derrière et à m'accrocher, mais je ne suis pas prêt à le faire, et du coup, je ne le fais pas.
Il y a une chose qui est étonnante, j'ai trouvé en tout cas, c'est que tu fais la course sans regarder ta montre. Et je trouve que c'est peut-être paradoxal ou pas, à toi de me le dire, alors que tu as cette idée et l'objectif principal est lié quand même à un chrono et à un temps. Est-ce que ça veut dire que fonctionner et opérer avec juste des points d'étape avec ton équipe qui te donne des repères, et puis toi, le reste du temps, te fier à tes sensations, c'est suffisant pour réussir à garder le cap, à toi auto-évaluer comment tu te situes par rapport à l'objectif? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais habituellement, ou est-ce que c'était spécifiquement décidé sur ce Lavaredo aussi de vivre sans les yeux rivés sur la montre?
En fait, je pense que c'est une qualité naturelle que j'ai, c'est qu'on me demande de me mettre à une vitesse ou une allure, et ça vient de mon passé vraiment peu académique, c'est-à-dire qu'avant j'avais pas de montre et je m'entraînais un peu à la sensation. Tu me demandes à me mettre à 12 km/h sur le plat, j'y arrive à peut-être 0,1 km/h près. Tu me demandes d'être à 17 km/h, je vais y arriver, pareil, sans regarder la montre. J'ai vraiment cette... En fait, j'arrive à me mettre à mes allures, assez... Et donc, du coup, à me gérer et à me connaître assez bien. Et du coup, j'ai pas trop envie de regarder la montre non plus, parce que je sais que j'ai un objectif, et du coup, si je regarde et que je suis pas dedans, j'ai pas envie que ça me sorte de ma course. Donc, je préfère juste prendre les infos des temps de passage au ravitaillement sans me poser cette question et potentiellement avoir une charge mentale du coup qui est un peu délétère sur la portion de course. Donc, non, c'est exprès que j'ai mis la trace sur ma montre et à le déniveler, mais j'ai fait exprès d'enlever le chrono sur l'écran qui s'affiche pour pas pouvoir le regarder, même par inadvertance.
La fin de course, elle s'est un peu précisée dans ton esprit, en tout cas les objectifs que tu t'assignes sur les kilomètres qui restent. Il y a une partie visualisation qui va être assez importante pour toi et qui va t'aider à ne pas décrocher, à garder le focus sur la fin de course. Est-ce que tu peux nous dire à quelle image et à quelle pensée tu t'es accroché sur ces derniers kilomètres?
Je pense que j'ai du mal à le décrire, parce que justement dans ma visualisation, elle n'était pas allée plus loin que cette dernière ascension. J'arrivais pas à mettre des images dessus, et du coup Anne m'avait dit c'est pas grave, en fait ça veut dire que juste tu verras, tu seras en pilote automatique et tu verras à ce moment-là, une fois que tu t'aviseras. Et Thomas m'avait dit pareil, il m'a dit tu te laisseras guider. Et en fait j'ai été guidé par une espèce de joie mélangé à de la rage, mélangé à de la douleur, le tout décuplé par une sensation de fatigue vraiment avancée. Donc c'est un cocktail détonnant, mais j'ai beaucoup de mal à décrire à travers les mots. Et c'est juste qu'en fait, j'ai juste envie d'arriver le plus rapidement possible à la ligne d'arrivée. Par contre, j'ai un motto, vraiment. Comme je disais, je suis fan de foot, et il y a un athlète qui me marque, c'est Kylian Mbappé. Je trouve que il est trop fort. En vrai, si le sport de haut niveau c'était un jeu, je pense que lui il aurait battu le boss du jeu. Il est bon en com, il est bon sur le terrain, il est bon en com, il assume, bref. Et il dit un truc, c'est qu'il faut mettre la balle au fond. Et moi, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai dans la dernière descente. C'est, putain, t'as pas fait ça, t'as pas fait tout ça pour te faire une cheville dans le dernier kilomètre. T'as pas fait tout ça pour tomber dans l'avant-dernier kilomètre. Donc, sois hyper concentré et tu relâcheras seulement quand tu toucheras le béton de Cortina et que tu seras à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Et c'est ce que je fais. D'autant plus que je suis tellement fatigué que j'ai une petite hallucination, en fait. J'ai l'impression que Mathieu, il est toujours là. Dès que je me retourne, je vois le petit point blanc de son t-shirt. J'entends aussi son souffle. Et à chaque fois que je double, à chaque fois que je croise des supporters sur le bord des chemins, je guette le nombre de secondes qui séparent les encouragements pour moi des encouragements pour Mathieu. Et à chaque fois, je compte 30 secondes. Donc, ça m'enjoint à vraiment pas lever le pied. Et en fait, c'est simplement quand je vais arriver dans Cortina d'Ampezzo, je vais me retourner, je vais voir que je vais pouvoir profiter de cette ligne droite parce qu'il est pas, je vais pas devoir sprinter, que je prends un kiff. Là, je prends une déferlante de kiff. C'est trop cool, quoi. Alors que j'ai même pas regardé le chrono. Et du coup, je sais juste que j'ai fait un truc bien, que j'ai kiffé, et que je suis satisfait de moi. Et je franchis la ligne d'arrivée sans même regarder le chrono. Et le deuxième moment vraiment hyper fort, c'est quand je vais serrer, une fois la ligne d'arrivée franchie, mes parents dans mes bras. Je demande à mon père, j'ai fait quoi comme chrono et tout. Il me dit, bah, t'as fait 12h44 et 47 secondes. Et là, je me dis, ouais, pour 13 secondes, c'est-à-dire que chaque choix que j'ai fait, genre même quand une compote est tombée et que je l'ai ramassée, quand j'ai changé de chaussure, tous les choix que j'ai faits, ils m'ont amené à faire à 13 secondes de mon objectif idéal. Et là, du coup, je ressens un sentiment d'accomplissement que je souhaite de vivre à tout le monde.
Et de la reconnaissance aussi, beaucoup. Et de la satisfaction, ouais, pour toi, et beaucoup de reconnaissance pour ton entourage au sens large.
Exactement. Comme je disais, moi, je viens des sports collectifs et cette démarche de sport individuel avec beaucoup d'individualisme. Je dissocie l'égoïsme de l'individualisme. Hein. Je ne suis pas égoïste, mais je sais que je suis individualiste. C'est-à-dire que je fais pas mal de choses où je me positionne au centre et je me fais passer avant pas mal de choses. Et que parfois, ça peut être un peu, pour mon entourage, un peu pesant, rater des déjeuners dominicaux, être chiant pour mes colocs parce que je fais pas de bruit, parce que demain, il y a une grosse séance. Et j'ai un peu de mal à l'assumer, ça, au quotidien. Et en fait, à ce moment-là, je me sens juste ultra reconnaissant pour tous ceux qui répondent à cette exigence individualiste par de la bienveillance et qui sont OK avec mon projet. Et en fait, depuis, c'est ça que je ressens. J'ai juste envie d'être cool avec eux, de les remercier et moi maintenant de leur rendre ce qu'ils m'ont donné jusqu'à la prochaine échéance.
Il faut quand même le mentionner, donc la course, elle a été marquée par la victoire de l'Allemand Nannenberger qui s'est imposé en 11h56. Il a signé pour l'occasion le nouveau record de l'épreuve, il a amélioré de 6 minutes, déjà sa marque, puisque c'était lui déjà le détenteur précédemment. Mathieu, il n'était pas 30 secondes derrière toi, il était 10 minutes. Mathieu a bouclé la course en 5e position en 12h54. Ma question suivante, c'est sur finalement ton... Il y a des parallèles qui sont arithmétiquement faisables avec ta position sur la Transgrande Canaria, sauf que c'est deux histoires très différentes. C'est quoi la signification et le ressenti sur ce Lavaredo? Ils sont tout autres, j'imagine. Elle veut complètement dire autre chose, cette quatrième place.
Ouais, ça fait deux fois que je finis quatrième. Et souvent, dans la littérature sportive, on dit que le quatrième, c'est le premier des perdants. Alors franchement, moi, je me considère comme le quatrième des gagnants. C'est vraiment comme ça que j'ai pris ces deux quatrièmes places. Parce que je pense que déjà, j'avais pas d'objectif de place, j'avais juste des objectifs de temps. Et du coup, je le vis différemment parce que la Transgrande Canaria, je me dis, c'est ça que j'aime et c'est ce pourquoi je suis fait. Ce pourquoi j'ai peut-être un petit talent. Et là, au Lavaredo, je confirme avec une performance que j'estime plus aboutie d'un point de vue sportif, parce qu'il y avait vraiment du lourd sur la ligne de départ, c'est parti super fort, et qu'en fait, moi, je finis quatrième à la pédale. Enfin, c'est vraiment le mot que j'ai, c'est à la pédale, et quand je regarde derrière, je vois Robert Agenal, enfin, je vois Mathieu Blanchard, troisième à l'UTMB, je vois Robert Agenal, deuxième à l'UTMB, je vois des gars super expérimentés et je me dis, ça confirme. Et c'est vraiment comme ça que je l'appréhende, comme une étape supplémentaire, validée.
A posteriori, qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile à gérer sur ce Lavaredo ?
Je pense que c'est la gestion de la nouveauté, au sens où j'ai découvert un schéma de course dans lequel je ne m'étais jamais embarqué, c'est-à-dire prendre des risques. Je suis quelqu'un qui prend pas... Je suis imprudent, casanier. J'aime pas trop la nouveauté. J'aime faire les choses plein de fois jusqu'à les maîtriser parfaitement. Du coup, j'étais dans l'imprévu total, sans parachute un peu, dans cette stratégie un peu nouvelle de partir fort. Et je trouve que je me suis pas mal adapté. Mais oui, j'ai trouvé ça dur. Et du coup, ça me donne pas envie de recommencer. Ça me donne envie de profiter, mais vraiment longtemps, et de surfer sur cette vague-là pendant pas mal de semaines.
Ça a été quoi, tu penses, les facteurs clés de la réussite et de l'atteinte de tes objectifs sur la course ? C'est des milliers de choses que tu as mises en œuvre et qui se sont alignées comme tu l'avais imaginé et que tu as construit pour qu'ils s'alignent de façon idéale ?
Oui. Il y en a tellement que du coup, je vais te proposer, comme en foot, de te dire que l'important, c'est les trois points.
C'est de la mettre au fond.
Ouais, c'est ça, trop plein de métaphores. Mais du coup, si je retiens trois points, la première, ce serait la préparation. Je pense qu'elle a été vraiment bonne. J'avais l'impression d'avoir un petit collier et je mettais les perles, au fur et à mesure, je mettais les petites billes en bois, les petites perles pendant ces trois mois de préparation. Et du coup, quand je l'ai enfilé le jour de la course, je me sentais prêt. Et ça, c'était vachement sécurisant. La deuxième chose, c'est la prépa mentale que je fais depuis un an et qui m'a vraiment offert beaucoup de sérénité. Et enfin, la troisième chose, c'est vraiment le team et le partage et ma famille et en fait le supplément d'âme qu'ils me donnent et les émotions qui me permettent de vivre par leur présence et leur soutien.
S'il n'y en avait qu'une, question classique de l'épisode, une seule image, un moment que tu figes.
Je pense que c'est quand j'ai franchi la ligne d'arrivée et quand j'ai serré Tom dans mes bras fort parce que... Tom, c'est hyper particulier, c'est le fondateur du team, c'est un ami, enfin, moi je considère comme un ami, presque un frère d'armes, mais en même temps il y a un rapport hiérarchique, au sens où c'est le team manager, et il est dur, il est exigeant avec nous, mais il a le compliment rare, et du coup, quand tu lis ça dans ses yeux, on l'a fait ensemble, et que tu te serres dans les bras vraiment d'une empoignade virile, mais forte et vraie, putain, ça fait trop du bien et ça valide tout ce que tu as fait en amont pour vivre ces 20 secondes. Donc c'est le moment que je retiendrai.
Comment tu sors de cette course ?
Apaisé. Repu. Repu et pas par les bacioli, c'est les petits gâteaux ronds là qu'on trouve en Italie un peu partout et qui te vendent sous format 5 kilos dans les stations service, mais repu de kilomètres et apaisé parce que je me suis prouvé que si je continuais, ben mes rêves ils pourraient peut-être devenir des objectifs.
Merci beaucoup Baptiste d'avoir partagé avec nous ton Lavaredo. On va parler maintenant un peu de l'avenir et se projeter. Est-ce que tu peux nous parler de tes rendez-vous sportifs qui sont à ton calendrier 2022 ? Alors mon petit doigt m'a dit qu'on te verrait du côté de Chamonix à la fin du mois d'août prochain et j'ai l'impression que ce n'est pas pour un stage de photographie de bouquetin.
Non. Non, je ne sais pas pour un stage de photographie. C'est plutôt pour une petite course sur laquelle qui me procure vraiment beaucoup d'envie et d'appétit ouais, j'ai hâte d'être sur cette course là sur la CCC donc de l'UTMB Mont Blanc.
Donc ça c'est ton grand rendez-vous, le rendez-vous français dont tu parlais tout à l'heure, c'est celui-là et c'est ta grosse échéance sur la fin de l'année.
Exactement. Y avait vraiment, j'avais construit ma saison sur un triptyque, trois objectifs, et là c'est le troisième. Et je l'aborde avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme parce que je pense que ça sera assez rare dans ma carrière d'arriver à Chamonix en ayant déjà réussi sa saison en fait. Au sens où pour moi ma saison 2022 elle est très bien. Et en fait, ça peut être la cerise sur le gâteau. Et du coup, d'arriver dans cette dynamique positive, j'ai envie d'en profiter. Et ça me met plutôt dans un mood joyeux et enthousiaste.
C'est un coup à faire une grosse perf comme ça, là, d'arriver relâché, en n'ayant finalement pas de pression et le sentiment que la saison a déjà été pleinement réussie.
Oh, et du coup, je ne vais pas répondre à cette
Non, ne
question parce
réponds
que
pas. Non,
j'ai envie de garder justement cette non-pression.
ne dénature pas voilà, le relâchement que tu as à l'abord de cette course.
Exactement.
À plus long terme, est-ce qu'il y a un défi, une course ou quelque chose du off, une autre discipline? Est-ce que tu as un rêve sportif ou une aventure qui te tient à cœur et que tu voudrais accomplir dans un horizon plus ou moins lointain?
Il y a vraiment, moi, il y a une course qui me tient vraiment à cœur et qui m'a fait aimer ce sport et enfin, qui est hyper symbolique parce qu'elle fait vraiment la jonction de mon histoire. C'est la Saint-Élion. Enfin, voilà, moi, j'ai grandi entre Saint-Élion et Lyon et c'est un peu la première grosse course que j'ai faite. Et mon rêve, ouais, ce serait d'être le premier à amener ma frontale. À la Altony Garnier en partant de Saintes un de ces soirs de décembre, sous la pluie ou sous la neige.
Obligatoire.
Voilà.
Il y a le matériel obligatoire, il y a les conditions météo obligatoires et la neige et la pluie,
Ouais,
ça en fait partie.
sinon, c'est pas une vraie Saint-Élion. Non, en fait, c'est la course. J'ai l'impression que c'est pas le plus fort qui gagne, celui qui a le plus envie, tellement à chaque fois, c'est dantesque. Moi, l'année où je l'ai couru, je sais plus si c'était de la course à pied ou du swimrun. Donc. Mais c'est cool, c'est franchement faut venir.
Promis. Baptiste, je te propose de conclure cet épisode avec la dernière question qui n'est autre que le motto de la fin. Est-ce que tu aurais un motto, une devise qui t'est particulièrement chère et qui a un sens et une saveur toute particulière pour toi? Est-ce que tu en aurais un à partager avec nos auditeurs?
Alors moi c'est un motto assez personnel et qu'on partage un petit peu dans le team, c'est on se prépare non pas pour une belle saison, mais on se prépare pour une grande carrière. Et du coup, même si on pratique pas ce sport dans une démarche, j'ai envie de dire, de performance ou de haut niveau, ben je trouve que ça implique juste une notion de long terme et de construction qui rend la démarche hyper intéressante, peu importe le niveau auquel on se situe et auquel on aspire. Donc voilà, c'est ce que j'aurais envie de partager, et moi c'est quelque chose qui me porte au quotidien.
Et ça allège aussi un peu, j'imagine, la pression, le fait de savoir qu'il y a le temps de la construction, en fait, que vous n'êtes pas dans un retour sur investissement court-termiste.
Exactement. Et du coup, ça incite aussi, ça veut dire que chaque échec est constructif, car il est envisagé comme une étape, donc ça invite à rebondir, et que chaque réussite est aussi une étape, donc ça invite à pas s'enflammer non plus. Donc voilà, je trouve que c'est la bonne pondération pour avancer patiemment et se faire plaisir.
Merci beaucoup Baptiste, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous ta spectaculaire course au Lavaredo qui a été fondatrice pour toi à bien des égards et qui, n'en pas douter, va être un jalon majeur de ton parcours sportif. Merci pour ton regard affûté, ton précieux sens de l'analyse et puis ta verve qui nous ont permis de vivre pleinement dans tes baskets cette course haletante et de comprendre parfaitement les enjeux qui étaient les tiens en tête de course notamment. C'est aussi très intéressant de vivre ça de l'intérieur, de mieux comprendre comment ça se passe et comment ça se joue. Je te souhaite de t'accomplir pleinement à l'avenir, tant d'un point de vue sportif que professionnel, mais aussi familial auprès de ton entourage, on l'a compris, qui compte tant pour toi. Et puis je te donne aussi, si tu veux bien, rendez-vous fin août auprès d'un micro de course épique pour qu'on se retrouve et que tu me racontes ta CCC qui, je l'espère pour l'occasion, sera l'acronyme d'une course cartonnée par Chassagne. Voilà, c'est un peu ça l'objectif de la CCC pour toi cette année.
Wow. C'est une
T'achètes?
sacrée fin. J'achète la fin, c'est pas un point final, c'est des points de suspension en plus.
Merci
Non,
pour
c'est
nos
cool.
échanges, Baptiste. Ça a été un grand plaisir et ça a été passionnant.
Je te remercie beaucoup. Vraiment, j'ai pris du plaisir à faire ce podcast et c'était un bon moment, ça restera un bon souvenir.
Beau souvenir partagé. Merci pour tout, Baptiste. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.